Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet univers merveilleux. Nous sommes aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast La Cartouche, le podcast Blueprint, qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo. La dernière fois, c'était le monde affreux de Rapture dans BioShock. Aujourd'hui, un monde bucolique, un monde presque paisible, s'il n'y avait pas tous ces monstres et notamment ces insectes géants et dégoûtants, rutilants et qui gardent des fruits qu'on aimerait bien transformer en jus pour survivre un jour de plus, mon cher loup coucou.
Salut, salut. Oui, bucolique et tout, mais attention, c'est pas les insectes les plus relous, sont les bulborbes, j'ai envie de dire. Terrible bulborbe.
Les bulborbes de Pikmin 3 Deluxe. Un nouveau jeu Wii U qui débarque sur Switch dans, cette fois-ci, il faut le dire, une version augmentée. Tu nous en parleras, mon cher loup. Mais avant d'arriver jusque-là, j'ai besoin de te poser cette question. Combien de temps as-tu joué à Pikmin 3 Deluxe et est-ce que tu l'avais déjà fait, voire fini, sur Wii U ?
Alors, j'ai joué pour l'instant une douzaine d'heures. Sur Wii U, je l'avais pas fini. J'étais allé assez loin, mais pas jusqu'au dernier monde. Je l'avais eu gratuitement et j'ai joué que très très tard sur par rapport à la console et tout. Et du coup, pas assez.
Mais ça t'a pas encouragé à le finir, étant donné la mort prématurée de la Wii U.
C'est le problème des jeux gratuits en plus, tu vois, j'avais déjà un backlog énorme et le jeu gratuit, tu vois, si je le gratuitement, donc du coup, t'as moins de se dire, ah, il faut que je rentabilise tout ça. Donc j'avais vraiment, j'étais pas allé très loin sur Wii U. Et là, du coup, c'est avec grand plaisir que je l'ai redécouvert, du coup. Et en 12 heures, bah, comme je connais quand même bien la licence, c'est vrai que même sans trop connaître, du coup, cet épisode 3, je suis arrivé assez facilement, assez rapidement à la fin. On va dire une dizaine d'heures était amplement suffisante pour finir le jeu l'aventure principale à 100%. donc, en ramassant tous les fruits au passage. Les 66 fruits diaboliques. Et commencer, du coup, les petits bonus de cette version de luxe.
Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu Pikmin ? On en a eu que deux épisodes qui sont sortis sur GameCube, qui sont ressortis ensuite sur Wii dans la gamme Nouvelle Façon de Jouer, donc adaptée à la Wiimote et au Nunchuk. Et après cela, silence radar jusqu'à cette version qui est d'abord sortie sur Wii U, puis désormais donc qui sort sur Switch la veille d'Halloween. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
J'ai envie de dire, es-tu bien sûr de ce que tu dis, mon cher Yann ?
Est-ce que je me trompe sur la date ?
N'as-tu pas oublié un jeu pourri sorti sur 3DS, il me semble ?
Oh oui, il y a High Pikmin !
Mais non, mais je rigole parce que je me suis vraiment souvenu de son existence. Alors, en écrivant mon test, en fait.
Oui, mais il y a plus d'apparitions d'Olimar dans Smash en tant que personnage jouable que de Hey Pikmin qui ont probablement été vendus. Donc,
ah oui, c'est certain. Il est complètement oublié. Et puis bon, c'est pas le même genre de jeu. On va pas trop regarder. Donc alors, c'est quoi le principe de ce jeu?
C'est comme si on fait une série sur Chibi-Robo. Chibi-Robo Ziplash sur 3DS, c'est très important. Tu l'aurais pas un peu oublié? Non.
Je suis sûr qu'on a parlé dans un podcast en plus de cette version de Chibi-Robo. Je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà évoqué à deux.
C'est une merde.
Je suis
oui
sûr que tu m'en as parlé. Enfin bref, du coup, c'est un jeu de stratégie assez original où tu diriges un capitaine. Dans les premiers, c'était Olimar, puis Louis. Et là, tu as trois capitaines d'ailleurs, ABC, Alf, Brittany et Charlie, qui dirigent une petite troupe de Pikmin, donc des espèces de carottes vivantes, carottes humanoïdes, qui ont chacun... tu le fais super bien. Qui ont chacun un petit pouvoir. Donc les bleus sont amphibies, les jaunes résistent à l'électricité et la conduisent même, les rouges sont plus forts pour les combats et ils résistent au feu. Et puis donc il y a les petits nouveaux, il y a les Pikmin ailés qui volent du coup mais qui sont un peu plus faibles, qui sont très pratiques du coup. Et puis il y a les Pikmin roches qui sont assez rigolos, qui peuvent notamment détruire le cristal, mais qui par contre ne peuvent pas s'accrocher aux ennemis. On oublie du coup les nouvelles races qui avaient été introduites dans le 2, qui sont le Pikmin violet, qui est le gros Pikmin que j'aimais beaucoup, et le Pikmin blanc, qui est le Pikmin toxique, qui était pas mal. C'est un petit peu dommage, ils sont présents seulement dans les modes mission, tout ça, enfin les petits jeux annexes. Mais dans le jeu principal, ils n'y sont plus, hélas. Mais voilà, donc l'idée, c'est de réussir à avancer, à se débarrasser des ennemis, déjà, en utilisant les Pikmin, et puis se débarrasser des obstacles aussi, de construire des ponts, abattre des murs, etc. pour pouvoir justement rapporter des fruits, les ramener jusqu'au vaisseau qui se pose à chaque fois dans une zone un havre de paix, comme je le disais dans BioShock. Donc tu as ta petite zone sécurisée où se trouve le vaisseau, et donc il faut ramener les fruits, ramener les cadavres de créatures qui te permettent en fait de recréer de nouveaux Pikmin, puisque tu vas en perdre forcément. Il y en a qui se feront bouffer, t'en oublieras, ils se noieront,
ils vont se noyer,
voilà, ils vont brûler, ils vont se faire électrocuter, c'est horrible, pauvres créatures.
C'est l'ennemis, c'est un peu les lemmings mais sans la plateforme, hein, d'une certaine manière. C'est vraiment, ils vont là où tu leur dis d'aller, mais ils savent pas vraiment réfléchir par eux-mêmes, donc il faut leur donner des ordres à tout moment, gérer le groupe, d'une certaine manière gérer ses ressources. Donc c'est peut-être l'expression la plus simple du genre de stratégie en temps réel.
Oui, après c'est simple, attention, parce qu'effectivement à cette notion de gestion des ressources, tu risques de mourir de faim, il faut récolter à tout prix des fruits, c'est pas si dur que ça honnêtement.
Et t'as du temps limité, chaque journée
est limité. Exactement, c'est ça que j'allais dire, donc c'est en fonction du temps, t'as plus cette... Tu l'as finalement par la pression de la nourriture, mais le premier Pikmin avait notamment rebuté, entre guillemets, parce que c'était franchement pas dur, parce que tu avais 30 jours finalement pour finir l'aventure. Sinon, c'était trop tard. Donc, tu devais ramener tous les objets de la fusée comment ça s'appelait? Le Dolphin, du coup, la fusée qui s'appelait Dolphin. Clin d'œil, d'Olimar. Là, t'as plus de temps, on va dire, mais il est subordonné au fruit que tu ramasses. Donc, t'as virtuellement autant de temps qu'il faut. Oui. C'est pas si dur. Honnêtement, quand j'ai terminé le jeu, c'était vers le jour 26, je crois, et j'avais plus de 70 rations, c'est-à-dire 70 jours virtuellement de jeu. Donc, tu vois, c'était vraiment pas... c'était faisable.
En fait, Ce qu'il faut préciser par rapport à tout ça, c'est que dans Pikmin, effectivement, t'as ta logique de jour, tu termines ça, mais tu navigues entre l'histoire vraiment qui t'est racontée où tu dois progresser de manière relativement linéaire, le prochain objectif est là-bas, mais tu peux aussi aller flâner et potentiellement trouver de nouvelles ressources.
Tout à fait.
En explorant un petit peu ailleurs. Donc c'est à toi de décider ton économie de journée, combien de rations tu as encore, combien de jours supplémentaires tu peux passer à explorer, jusqu'au moment où ça va vraiment devenir impératif de faire progresser l'histoire.
Oui, il faut jauger, mais après si tu veux faire le jeu en ligne droite sans t'occuper de ramasser tous les fruits, ça peut être très rapide, honnêtement. Je pense qu'en 5-6 heures, c'est bouclé.
Ouais. Oui, c'est... Mais ce que je trouve intéressant, en fait, avec ce jeu-là, et je vais très vite admettre un truc que je ne pensais pas aller admettre jusque-là, j'ai joué à la démo. J'ai pas eu, comme toi, une version du jeu complète. J'ai joué à la démo qui est disponible, que j'encourage d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent à la télécharger si elles sont curieuses à propos de Pikmin. Parce que pour moi, Pikmin, j'ai jamais, en voyant le jeu présenté, notamment lors de Nintendo Direct, lors de 3, lors de conférences, j'ai jamais trouvé ça très intéressant. J'ai même trouvé ça un peu niais, l'univers, ses personnages, etc. Mais en y jouant, j'ai trouvé que c'était une porte d'entrée formidable par rapport à ce genre de genre et qui est très accueillant pour un joueur novice comme moi dans la stratégie en temps réel.
Oui, je trouve que c'est le cas, c'est vraiment très intéressant, c'est un jeu qui est mignon, mais un peu à la Pokémon, tu vois, mignon, mais derrière, il y a quand même des mécaniques, alors pour le coup, qui sont peut-être pas aussi profondes que dans Pokémon, enfin, on compare l'incomparable, mais en tout cas, il y a une vraie exigence, hein, c'est pas un jeu simpliste pour autant. Ouais. Il faut bien jauger, il faut bien comprendre, bien observer l'environnement, bien se rendre compte, c'est pas du tout insurmontable, quand tu connais la licence, honnêtement, le 3, voilà, tu fonces vite, mais t'as 3 niveaux de difficulté déjà. Un qui se débloque seulement quand tu finis l'aventure. Donc du coup,
ou alors quand tu finis la démo.
C'est vrai, tout à fait.
Donc ça peut être un point de vue. Si vous avez déjà fait la version Wii U et que vous voulez le refaire sur Switch mais avec un défi supplémentaire, faites la démo d'abord. Ça vous permettra de débloquer le mode de difficulté. Je crois que c'est pimenté le nom de la difficulté.
Donc rien que ça déjà, c'est intéressant parce que le jeu peut être effectivement trop simple quand tu connais la licence. Et là, tu te mets un petit peu des bâtons dans les roues et et c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est un jeu qui peut être exigeant.
C'est vrai qu'en normal, en tout cas sur les trois jours que j'ai pu faire, ça m'a pas demandé un effort incroyable. J'ai perdu assez peu de Pikmin, ça se voit assez directement. Une question d'ailleurs sur Pikmin 3 tout court, ça tombe bien d'ailleurs Pikmin 3 parce qu'il y a 3 capitaines contrairement aux deux premiers épisodes. Si je ne m'abuse, et j'en vois un petit peu déjà avec la démo des petites touches comme ça, mais une des idées qui change particulièrement par rapport aux deux premiers, c'est le fait de pouvoir séparer son groupe de Pikmin en plusieurs capitaines qui vont aller faire des choses différentes à différents coins de la map. On lance un capitaine et quelques Pikmin au-dessus d'un fossé, et puis c'est ce capitaine-là qui va prendre le relais.
Tout à fait. Tu peux gérer les trois capitaines indépendamment, tu peux les gérer ensemble, et c'est indispensable d'ailleurs de savoir les faire coopérer, parce que tu peux les jeter au-dessus d'un obstacle, et puis jeter, enfin tu jettes deux au-dessus d'un obstacle, et le deuxième jette le troisième au-dessus de l'obstacle, et ça permet d'avancer. Il y a des choses, c'est obligatoire pour progresser dans l'aventure de savoir gérer ça. C'est une petite gymnastique à faire quand t'es très habitué finalement au jeu original. Parce que c'est vraiment le truc en plus qui est bien conçu, qui est peut-être pas hyper exploité non plus, mais ça ajoute quelque chose déjà parce que tu peux explorer aussi deux fronts différents de l'endroit où tu te trouves, de la zone à explorer, en envoyant par exemple en déplacement automatique une partie de Pikmin avec le capitaine. Tu peux dire à un capitaine, tiens, déplace-toi là-bas, et pendant ce temps tu pars avec un autre à un autre endroit pour explorer tout ça. Quand l'autre est arrivé, tu échanges, tu passes de l'un à l'autre, donc rien que ça te permet vraiment d'optimiser, et c'est très bien conçu. Mais surtout, une des nouveautés de la version Deluxe, c'est que ça, tu peux le faire à deux joueurs, puisque l'une des nouveautés, c'est le mode coopératif en écran splitté. Et ça, vraiment, c'est
uniquement en local ou aussi en online?
Uniquement en local. C'est plus simple, et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, du coup, tu optimises à fond. Et tu peux vraiment explorer deux coins, et ça crée quelque chose d'assez sympathique. J'ai pu y jouer à deux joueurs. Quand les deux joueurs ont un niveau assez similaire, si t'as deux pro gamers de Pikmin, je pense que ça peut être très intéressant de jouer en version pimentée, parce que là tu te dis allez, on peut vraiment y arriver à deux en ayant les bonnes stratégies, etc. Et ça, pour le coup, j'aime bien.
Je reprendrai ta comparaison avec Left 4 Dead que t'as utilisé par rapport à BioShock, mais comme tu décris ça, jouer en pimenté à deux à Pikmin 3 Deluxe, ça me donne un petit peu cette impression-là aussi, finalement.
Ouais, peut-être pas de zombies, mais...
Non, bien sûr.
Mais non,
mais le côté incursion en terrain hostile jusqu'à la prochaine zone sécurisée.
Ah, mais déjà, tout seul, t'es obligé d'avoir des stratégies. T'es obligé de mettre au point des stratégies, vérifier ton armée de Pikmin, hein, voir les.
J'aime bien l'indépendance que
couleurs.
Tu peux leur donner aussi quand ils vont aller ramener quelque chose au Drake, c'est-à-dire à la fusée qui te sert de
quand t'as sécurisé la zone, après tout, tu les laisses faire, hein, tu vois. Sauf des petits obstacles, genre des flammes, faut être vigilant. Mais sinon, ils sont assez autonomes aussi. Tu peux partir faire autre chose. Mais quand t'as un combat, il y a quelques adversaires qui sont un peu plus coriaces que d'autres, ça nécessite du coup plus de préparation. Là, impérativement, il faut que tu sois prêt, il faut que tu te coordonnes aussi du coup avec ton coéquipier, mais c'est intéressant de le faire à deux.
Il faut le préciser visuellement, si vous avez jamais vu un jeu Pikmin, il y a cette tentative de faire du réaliste, du plus ou moins réaliste avec les environnements et avec les objets. Et je voulais te poser cette question-là, vu qu'on est sur une version de luxe. Est-ce que cette version de luxe apporte une refonte graphique par rapport à la version Wii U, ou est-ce qu'on est peu ou prou sur le même jeu?
Oh, je t'avoue que là, la question graphique, c'est pas encore posé. J'ai pas encore comparé directement, mais je pense que de toute façon, c'est forcément mieux vu que t'es en HD. Et le jeu m'a paru quand même assez joli. Enfin, vraiment avec des beaux petits effets, des belles animations. L'eau, tout ça, ça a toujours été les points forts. En même temps, il y a relativement peu de zones à explorer. Hein.
Ce que j'allais dire, c'est que c'est sympa, mais sans plus. Et en comparant rapidement avec la version Wii U, j'ai pas trouvé ça excessivement plus beau. Je saurais pas te dire au niveau de la résolution, mais j'ai pas trouvé ça excessivement plus beau. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec les menus, avec les effets de texte. Enfin, à chaque fois que tu termines une journée, t'as le texte qui se tord un petit peu. T'as un côté très Nintendo bizarre, très proche. On sent l'héritage de la GameCube en fait dans la bizarrerie rigolote, la bizarrerie cartoon qui est reprise dans l'interface et dans plein de points différents dans Pikmin. Il est complètement digne de cet héritage, Pikmin 3.
On va dire qu'il va être plus agréable pour sa direction artistique que pour ses prouesses techniques, comme c'est très souvent le cas de toute façon avec les jeux Nintendo. Hein. Ils misent toujours
sur Nintendo Switch, d'autant plus d'ailleurs.
Bon, tout à fait. Donc voilà, ça va pas être une prouesse incroyable, mais le peu qui est présent, je trouve que c'est suffisamment soigné, poliché pour faire un petit anglicisme, pour flatter la rétine.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette version de luxe qu'il n'y avait pas sur la version originale ?
Eh bien, ils t'ont ajouté un petit épilogue et un petit prologue dans lesquels tu incarnes Olimar et Louis, du coup, les deux petits protagonistes des premières itérations. Du coup, de
prologue que je n'ai pas eu dans la démo, d'accord, d'accord.
Oui, parce que tu le débloques en fait une fois que tu croises, une fois que tu tombes sur les notes d'Olimar sur le jeu principal.
Qui est là où la démo s'arrête. Hein.
Exactement. Donc tu débloques d'abord cette histoire parallèle et après tu débloques l'épilogue. Et c'est intéressant parce que ça c'est totalement inédit. Ça donne un nouvel éclairage. Ça va pas être révolutionnaire par rapport au jeu principal, mais ça ajoute un petit peu de contenu. Faut pas s'attendre à doubler la durée de vie non plus, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est un petit ajout sympathique qui en plus est sympa pour ceux qui l'ont fait à l'époque. S'ils veulent le découvrir en coop, ça leur fait des missions inédites en plus, tu vois. Donc tu pars vraiment de zéro sur ces missions, ce qui est pas mal. En autre nouveauté aussi, on va dire c'est plus du confort pour le reste. Ils ont ajouté un système de verrouillage qui facilite en fait l'envoi des Pikmin sur une zone donnée. Et puis t'as tout ce qui va être, on va dire, enrobage côté encyclopédique, tout ça. On te fait un joli menu avec des petites informations. C'est sympathique, on va dire. C'est plus là, on va dire, au niveau du lore, c'est anecdotique, mais. Mais c'est intéressant, ça te plonge plus. Disons que ça améliore la finition du titre. Mais c'est vrai que moi j'aurais préféré des missions principales parce que
l'aide à la visée, c'est de loquer avec Zadar sur les.
C'est ça.
Eh ben je trouve ça très bien. Ça me surprend que ce soit pas dans le jeu original du coup.
Bah écoute, de ce que j'ai lu, de mes vastes souvenirs sur Wii U, il faut que je me repenche dessus. Mais normalement, ça fait partie des nouveautés. Donc ça plus l'envoi rapide de Pikmin, tu peux vraiment mitrailler les Pikmin quand tu lock, tu le laisses appuyer. Du coup, le gars il va tout envoyer très rapidement. C'est très pratique pour les combats. Donc ça c'est bien. Mais ce que j'aurais vraiment voulu, ça aurait peut-être été des missions principales quand même dans l'histoire, dans la quête de base, puisque tu as de mémoire c'est 4 niveaux je crois seulement, le 5e étant le niveau de fin qui est un peu à part. On va dire c'est un monde boss en quelque sorte. Les autres niveaux sont cool, mais tu les termines assez facilement. J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent au moins un monde quoi dans le jeu de base pour pouvoir, je sais pas, atteindre les 100 fruits, ça aurait été bien. Un ou deux mondes, du coup, ça aurait été sympa.
Ouais. Non, effectivement, c'est peut-être un peu court, c'est ça que tu veux dire.
Ça reste court. Tous les jeux Pikmin, le 1 était court, le 2 était court. Voilà, c'est dommage.
Du coup, ça vaut le coup de poser la question. Est-ce que c'est plus intéressant de prendre cette version de luxe à plein pot avec le contenu et les petites améliorations de confort dont tu nous as parlé, ou de prendre la version originale sur l'eShop Wii U à 25€?
Ouais, alors ok, c'est la moitié du prix, certes, mais je trouve vraiment que rien que pour le co-op, sincèrement, et puis pour les petites missions en plus, quand même, on va pas se mentir, ça ajoute un petit quelque chose. Ça vaut le coup quand même. Je trouve que le co-op, j'espère qu'il sera présent de base dans Pikmin 4 quand même. Ce serait quand même mieux.
Si Pikmin 4 existe un jour, parce qu'à ce stade on est sur le niveau de running gag digne de 128.
Écoute, il est théoriquement toujours en développement, hein, donc Pikmin 2 ça a été quelque chose aussi. Pikmin 3 pardon. Pikmin 3 c'était compliqué son développement. Donc voilà, mais non, je trouve que pour le co-op,
il était très proche d'être terminé en septembre 2015. Hein,
ouais. Écoute, peut-être que du coup il va être très long le 4, hein. Peut-être tu vas parcourir la.
Ou alors peut-être que c'était Hey Pikmin.
Ça c'est méchant, c'est mesquin. Non, donc voilà. Ouais, c'est le prix effectivement, mais non, je le conseille quand même. Je pense que en tout cas pour ceux qui l'ont pas du tout fait, hein, faut vraiment mieux s'intéresser. Si vous l'avez déjà fait, honnêtement, la version de luxe se justifie pas trop. Les ajouts se justifient pas, sauf si vraiment vous avez une faim hallucinante pour faire le jeu en coop, ce qui peut arriver, mais honnêtement, ça vaut pas le coup de s'y replonger. Hein. Mais si vous le découvrez là, on va dire que c'est acceptable. Disons que c'est sur la tangente à cause, encore une fois, de la durée de vie. Pour moi, c'est le point majeur. Peut-être qu'ils auraient dû sortir une petite compilation des trois. Hein. Là, pour le coup, ça aurait été peut-être plus sympa.
C'est la solution à tous les problèmes, les compilations. Y a pas de Metroid, compilation.
Non mais tu vois, quand
on... Metroid, Pikmin 3 est un peu court, compilation.
Quand tu te poses la question Mario 3D All-Stars est cher alors qu'il te présente 3 jeux avec une durée de vie quand même relativement incroyable pour l'ensemble, si tu veux le finir à 100%. Pikmin 3 en solo à côté, même si t'ajoutes le co-op et deux morceaux d'aventure inédits, entre guillemets, c'est plus difficile, on va dire.
Mettons-nous maintenant en situation, Pikmin 3 Deluxe, c'est un des deux gros jeux de la fin de l'année pour Nintendo, qui fait front par rapport au lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X et S avec des jeux qui viennent avec. Donc d'un côté, on a Pikmin 3 Deluxe, et de l'autre, toujours chez Nintendo, on aura Hyrule Warriors 2. C'est les deux grosses sorties de la fin de l'année. Est-ce que c'est suffisant comme pour la période des fêtes, à ton avis ?
Pikmin, pour moi, n'est jamais suffisant.
Ça aurait été un jeu du début de l'année prochaine, je trouve.
Par essence, tu vois, c'est...
Ça aurait fait une bonne sortie de janvier-février.
Enfin, en tout cas, c'est pas un système seller, ça c'est sûr.
Non.
C'est un jeu qui occupe, on va dire. C'est une licence relativement mineure, quand même, que j'adore avec tout l'amour que je peux avoir pour cette licence. C'est pas non plus une énorme licence. Je pense même qu'Hyrule Warriors 2 va plus se vendre, simplement parce que Zelda, Breath of the Wild, et je trouve que le concept, ils l'ont bien retravaillé, Hyrule Warriors 2. Hein. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner en termes de gameplay, ça a l'air beaucoup plus profond. Mais, ouais, c'est un peu léger. Cela dit, est-ce qu'il est trop tard pour qu'ils nous sortent une sortie surprise? Bon, oui, quand même, certainement. On est fin octobre, faut pas rêver. Mais, ouais, c'est un drôle de Noël, je trouve, quand même, pour Nintendo. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Je trouve que ça fait peu. Je trouve que c'est un drôle de Noël. Ceci dit, ils vont pas mal pousser justement la Switch plus la compilation 3D All-Stars et ce genre de choses. Je me fais pas de soucis pour eux. La Switch se vend très bien. La Switch, elle vient de battre aux États-Unis un record de vente, de première position en termes de console en nombre de mois consécutifs de vente en tête. Donc la console est clairement pas à la traîne ou à la peine. Ça, c'est pas une question. C'est juste qu'effectivement, en termes d'offre de jeux, c'est peu, et on sent, à mon avis, en mars-avril, il disait « le coronavirus n'a pas d'impact sur nos sorties de la fin de l'année ». J'y crois de moins en moins. Non seulement en voyant ça, mais en plus en voyant que certains jeux qui étaient exclusifs au Japon, notamment la nouvelle version d'un jeu d'enquête, qui devait sortir relativement bientôt, a été repoussée. Donc on sent quand même que c'est plus difficile pour eux.
Je suis pas sûr que ce soit tant le coronavirus que la sortie de la next-gen, en fait, finalement, parce que... Il y a la...
Oui, alors ça, c'était prévisible qu'elle sorte en cette fin d'année, excuse-moi. Là,
c'était prévisible, mais justement, pour moi, ils se sont dit, en fait...
Ils gâchent pas des cartouches.
Exactement,
c'est ça,
exactement. Ça ne sert à rien de rivaliser. Le gros de l'attention, le gros des ventes va être drainé vers les nouvelles consoles. Ça, ils le savent forcément. Donc, est-ce que c'est le moment de sortir un jeu majeur?
Au final, ils sortent Zelda, parce que Zelda est suffisamment bankable pour avoir un espace médiatique alors que les autres consoles sortent.
Mais ils sortent Zelda, Hyrule Warriors.
Oui, tu vois. Ce qui est pas grave à gâcher.
À mon avis, exactement. Ils auraient jamais sorti Breath of the Wild 2 en frontal avec la next gen. Pour moi, ils veulent vraiment se réserver.
Ça aurait été courageux.
Ils se seraient vendus, c'est pas du tout la question. Mais je pense qu'ils essaient vraiment de se fabriquer des boulevards. Et là, pour le coup, tu vois, ça te crée en plus une attente autour de Breath of the Wild 2, clairement. Hyrule Warriors 2, ils ne peuvent pas le sortir après Breath of the Wild 2, clairement.
C'est comme dans Bayonetta quand tu dodges une attaque pour ensuite en coller une plus grosse derrière.
Mais bien sûr, c'est comme tu pouvais pas sortir Pokémon Let's Go avant après bouclier.
Bien sûr.
Stratégiquement, tu pouvais pas faire ça. Donc ils le sortent avant le véritable épisode, finalement. C'est le bon moment. Donc là, ils se disent, ce Noël-ci, il est pas pour nous. Clairement, ça va pas être pour nous. On va sortir des trucs pour occuper les joueurs qui ont déjà la Switch.
C'est pas nécessaire pour eux qu'ils sortent de nouveaux jeux. Ouais.
En plus, tu vois, t'as eu en amont, t'as eu Mario 3D All-Stars, tout ça. Donc, ils se disent, allez, novembre, décembre, c'est pas pour nous. On va les laisser se batailler. On a notre public qui est acquis et qui a déjà ses petits jeux. Et après, début d'année, on va voir comment on attaque.
Pas faux. J'aime bien cette explication. Merci Lou, tu m'as un petit peu rassuré et contextualisé ça pour moi. Et je te propose du coup, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter par rapport à Pikmin 3.
Non, ça va, à part que j'aime beaucoup le cri des Pikmin, le chant des Pikmin.
Alors tu parles du chant des Pikmin. Moi j'avais parlé des voix des personnages et de la langue qui parle, qui a un simlish dans lequel se distinguent les mots importants comme le Drake.
Le Drake Okotate et tout. Et à tel Brittany. Point que... exactement. Et écoute, je crois qu'on m'entend dans le let's play me poser cette question un peu étrange. C'est-à-dire que...
Est-ce que c'est du japonais?
Exactement.
Non.
Exactement. Non mais c'est
pour écouter un peu de japonais de temps en temps, c'est pas du japonais.
Non, mais bien sûr, tu vois, j'ai regardé des animés en japonais et tout, mais je veux dire, je reconnaissais tellement des mots prononcés à la japonaise que je me suis dit, mais c'est pas du japonais et tout. Enfin, tu vois, c'était au bout d'un moment, t'écoutes, tu fais, non, vraiment, il raconte n'importe quoi en fait. Mais
personne ne dit nani, ce n'est pas du japonais.
T'as ce moment d'inquiétante étrangeté, on peut dire, où tu te dis, ça ressemble vraiment à cet an. Et je trouve que ça participe énormément au charme de ces passages, et puis tous les cris des Pikmin. Et mon seul regret, c'est évidemment qu'il n'y a pas la chanson française quand même. On est très fiers d'avoir
je semi-regrette, semi-pas-regrette de ne pas l'avoir mis là pour cet épisode là ensemble, prêt à être diffusé.
Mais surtout, je crois qu'elle est plus dans Ultimate par rapport à Smash Bros sur
oui, bien
Wii
sûr. Non, c'était dans Brawl.
Dans Brawl même. Je trouve que c'est une grande erreur de ne pas avoir remis cette musique qui elle est culte, quoi. Je trouve ça génial. On a une chanson inédite dans notre pays, ce qui n'existe dans aucun autre pays. Enfin, moi je suis fasciné.
C'est ça,
par
l'exception culturelle française.
Nous sommes les Pikmin, vos nouveaux amis venus pour vous aider. C'est quelque chose comme ça. Non, c'est trop mignon.
C'est vrai en plus. C'est vrai.
J'adore.
J'aime beaucoup le fait que tu te souviennes de littéralement la deuxième phrase dans les paroles. Bravo.
En fait, c'était la chanson que j'avais mis en apparition maximale dans Brawl quand je sélectionnais un niveau des Pikmin.
Ah, waouh.
Tellement je trouvais ça génial de combattre là-dessus.
C'est celle que j'avais mis en zéro parce que j'aimais pas. Mais écoute, oui, tu vois, nos auditeurs parfois nous disent « Ah, vous avez les mêmes goûts, etc. » Pas du tout, on a des vues très polarisées sur la chanson des Pikmin dans Smash Bros. Brawl.
Qui n'est pas du tout une chanson Nintendo.
En plus. Mon Dieu. Passons, si tu veux bien, au suivi, au courrier. Allons-y. Avec justement un message Apple Podcast. Alors, j'ai pas relevé le nom de la personne, je vais le faire tout de suite parce que j'ai pas copié-collé ça.
Est-ce que tu veux que je le lise pendant ce temps ?
À mon grand dame, vas-y, lis-le nous.
Parce que je crois qu'en plus, il m'est décerné, donc...
Oh.
Voix paradiophonique et contenu erroné. 1 étoile sur 5. Oh, ça c'est pas sympa. Je suis désolé, mais je ne supporte pas la voix du chroniqueur. De plus, beaucoup trop d'imprécisions dans vos propos. Dommage pour un podcast qui se veut spécialiste. Alors déjà, je me suis dit...
Qui est le chroniqueur ?
C'est ça, je me suis dit... Je pense honnêtement que c'est moi, vu que tu présentes plus souvent, il me semble. Donc je crois que je suis le chroniqueur. Et je pense que j'ai une voix qui va être moins radiophonique que la tienne, parce que j'ai des petits soucis d'articulation.
Honnêtement, non. Enfin, je trouve pas qu'il y ait une telle différence.
Mais en même temps, il y a tellement de gens sur ma chaîne YouTube qui me disent qu'ils adorent ma voix, tout ça, que je le prends pas trop mal. Donc, moi-même, j'aimais pas ma voix. Vraiment, avant de faire du podcast, je ne supportais pas ma voix. J'aime toujours pas l'entendre. Personne n'aime entendre sa propre voix. Mais je ne trouve pas qu'elle soit moche. Je commence à apprécier sa tonalité, même si des fois j'entends mon accent du Nord. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte totalement.
Honnêtement, pour un Français, je te décèle très peu d'accent.
Je sais, mais moi, je l'entends. Je vais l'entendre forcément. Et la moindre petite inflexion qui me fait penser à l'accent du Nord, ça me hérisse le poil. Donc c'est terrible. Mais je pense qu'elle parle de ma voix. Et pour les imprécisions, c'est aussi fort possible que ce soit moi. Et honnêtement, c'est aussi... Enfin, c'est ce que je me disais en lisant le commentaire. C'est la façon dont on fait le podcast. On le fait vraiment en discutant, tu vois, en échangeant.
Bien sûr.
Ça m'arrive de me planter, genre parler avec mon copain sur mon test du DLC d'épée et bouclier où j'ai dit niveau 60 au lieu de 70. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça.
Oui.
Forcément que ça arrive. Après, l'idée générale est correcte, mais il est fort probable que je me plante de temps à autre sur des petits points de détail.
Et bien quand même, on fait un travail pour préparer ce qu'on va dire, qui peut être parfois assez extensif. J'ai passé plusieurs heures, par exemple, à jouer à Bioshock pour l'épisode précédent. J'ai quasiment refait en entier, et là je vais le terminer après qu'on ait enregistré ce podcast. Je prends l'exemple de la compilation 3D All-Stars. Merde, j'ai terminé 3 jeux pour cet épisode, quoi.
Même là, tu vois, là, j'ai joué à Pikmin 3 Deluxe, tu me poses la question, qui était pas dans le conducteur en plus, tu m'as pris en traître sur...
Mais parfois c'est intéressant parce que ça révèle quelque chose de notre processus. Parfois, il y a une question que je trouve très intéressante à poser que j'avais pas prévu en avance.
On pète 100 fois le conducteur parce que des fois, on se dit, tiens, finalement, au fur et à mesure de la discussion, cette question-là est plus intéressante à ce moment-ci. Donc
c'est plus naturel à en parler à un tel ou tel moment.
Ouais, voilà. Donc, on essaye de pas non plus coller artificiellement pour que ce soit plus discuté. Et je trouve qu'on s'y attelle de mieux en mieux parce que c'était vraiment... tu te souviens, là j'ai l'impression qu'on passe en fait dans l'after show presque. Il y a eu une période où on se disait on interagit pas assez finalement, peut-être trop mécanique nos relances, etc. Ouais. On essaie d'aller vers la formule la plus fluide possible. J'ai l'impression qu'on y est vraiment arrivé.
Et on a mis 6-7 mois à la trouver. Enfin, j'ai vraiment fait « Ah, on va faire ça, non, on va faire ça, on va faire ça !» Et puis on est finalement arrivé là.
Mais je trouve que cette version la plus fluide possible, forcément, ça passe par le fait d'avoir le moins de conducteurs possible parce qu'il faut qu'on discute au max. Oui. Et voilà, là, tu me poses la question sur la différence graphique. Je te réponds honnêtement, j'ai aucun recul. Je saurais pas te dire. Je me suis pas encore posé la question parce que effectivement, on intervient à un moment où j'ai pas encore rédigé mon test. Puisque là on est à une semaine du NDA au moment où on enregistre, et donc donc du coup j'ai pas encore fini, j'ai encore du temps on va dire. Puis il y a Pokémon en plus entre temps, donc je dois passer à autre chose, mais voilà, tiens d'ailleurs on pourra en parler dans l'after show de Pokémon, les leaks qui ne seront plus des leaks du coup. Mais voilà, donc les imprécisions, bon voilà, ça arrive. Bon, je l'assume, écoute, c'est aussi le format qui veut ça. Mais après quand t'as pas d'exemple concret, c'est toujours plus compliqué. Moi j'aime bien les exemples argumentés, j'ai déjà dit sur les commentaires hein. Quand t'as un reproche, c'est bien de dire pourquoi, voilà.
Non, carrément, et c'est bien pour nous d'y répondre aussi. Enfin, je trouve ça intéressant de lire à la fois les commentaires positifs et les commentaires négatifs et de réagir aux deux. C'était la zouille du 52, Lou, tu voulais dire?
Très bien. Je veux dire, pour ma voix, je pourrais rien faire par contre. Là, c'est.
Non, effectivement.
Désolé.
Et c'est un commentaire qui a été posté le 8 mars 2020, donc dans un monde où on n'était pas encore rentré en confinement. Peut-être d'ailleurs qu'au moment où vous nous écoutez, vu qu'il y a à peu près une semaine de décalage, 10 jours de décalage entre le moment où on enregistre ça et le moment où vous l'écoutez, peut-être que. Mon pays, et peut-être même le tien, Lou, sera rentré dans un nouveau confinement, on verra bien.
Complètement, mais tu me fais halluciner parce que je scrollais pour pouvoir taper leak Pokémon pour pouvoir le mettre dans l'after show.
Et t'es tombé sur leak gouvernement Macron.
C'est déjà écrit, les leak Pokémon DLC, t'as été... Mais quand as-tu trouvé le temps d'écrire ça sans je m'en rends
pendant
compte.
Qu'on se parlait là maintenant.
T'es tellement fort.
Écoute, j'essaie de faire ça au mieux pour pas qu'on l'oublie, pour qu'on en parle dans l'after show. Avant l'after show, ceci dit, je dois vous dire merci de nous avoir suivis. Pour aujourd'hui donc, la cartouche, c'est terminé. Toutefois, après le générique, ce sera donc, on vous l'a dit, l'after show, où on va parler notamment, je crois qu'on l'a assez teasé maintenant, du DLC Pokémon, puisqu'on a des infos qui seront plus des infos pertinentes au moment où vous nous écouterez, mais il y a quand même un truc intéressant à dire par rapport à ça, c'est nos attentes. Et aussi, on parlera d'Among Us et de la saison 2 de Fall Guys, sans oublier une démo de Humankind sur Stadia. Voilà, tout ce qu'on traitera dans l'after show de cet épisode. Vous pouvez nous écrire avec vos questions, avec vos réactions, avec vos idées de jeux, les jeux que vous voudriez nous entendre traiter, qu'ils soient nouveaux, vieux, ou des listes, des concepts peut-être de listes de top 5 que vous voudriez nous entendre faire, proposez-nous ça par email, lacartouche@blueprint.pm, et sur Twitter, @lacartouchebp. Tant qu'on parle de Twitter, vous pouvez nous y suivre, @alexleserveur, c'est toi Lou.
Oui, c'est moi.
Et @ingshd, c'est moi Yann. Oui. Allez, à très vite. Ciao, ciao.
Salut.
Tellement beau, j'ai même pas envie de mettre et de le laisser tourner en fond comme ça.
Mais oui, j'adore cette musique.
C'est beau, hein? On a commencé, on est sur l'écran titre, c'est magnifique. Voilà, je vais faire un petit fade out quand même. Alors, after show, parle-moi-en, du coup, parce que j'ai pas trop suivi les leaks du DLC.
Est-ce que tu as spoilé du coup ou pas?
Ça me gêne pas. Franchement, vu la gueule du premier DLC, oh là là.
Mais il y a deux Pokémon qui n'ont pas été révélés et qui vont apparaître.
Vas-y, et vous autres auditrices, auditeurs, bouchez-vous les oreilles pour la
mais
minute
non,
qui suit.
Ce sera sorti.
Ah, c'est sorti. Bon,
c'est sorti. C'est sorti. Ça sort
sorti.
Dans deux jours, là, du coup,
sorti.
On enregistre. Donc, du coup, ça sortira depuis quasiment une semaine quand on aura fait le. Tu sais même pas quand est-ce qu'ils sortent, tu ne suis plus du tout Pokémon.
C'est juste, non, honnêtement. Honnêtement, j'ai été suffisamment déçu par le premier DLC pour pas être en mode « Alors le second DLC sort dans 4 bah, jours !»
Déjà, ce qui a été décevant, alors il y a eu des data mining...
Je sais qu'il sort ce mois-ci, mais je sais pas
comment. Bah, il l'a dans 2 jours, vendredi.
Nice.
Du coup, tu sais quoi faire de ton week-end.
Non, ce qui m'a... Donc il est sorti il y a une semaine, pour vous qui nous écoutez c'est à la sortie de cet épisode.
Le point qui est décevant déjà, bon, à prendre avec des pincettes, c'est la durée de vie. Il parle de 4 heures, ce qui est relativement identique, on va
non,
dire.
Non, mais qui sort demain ? Je l'ai demain dans mon calendrier, le 22.
Ah, le 22 ? Bah écoute, ouais. Moi j'ai 23. On verra bien. Donc voilà, la durée de vie, 4 heures, c'est assez similaire au premier, je trouve, du coup. Alors que la zone a l'air beaucoup plus étendue. Bon, la durée de vie d'une aventure Pokémon, c'est toujours difficile à estimer, la façon dont tu joues, etc. Enfin bref, on verra, on jugera sur pièce. Non, ce qui est intéressant, du coup, donc Silveroi, le Pokémon légendaire, du coup, et le Pokémon 898. Il y a aussi donc les deux dragons, les deux golems, Regidraco et Regieleki, donc les deux nouveaux golems qui viennent compléter le trio qui était déjà un quatuor avec Regigigas.
De rubis, saphir, émeraude.
Exactement.
Et c'était diamant, perle, Regigigas.
Exactement.
Okay.
Donc, donc là, il y a deux nouveaux types. Bon, dragon électrique. Ouais.
Je suis avec la licence Pokémon, je suis au point d'être désabusé comme après diamant et perle quand j'avais été assez désensibilisé à Pokémon. Et en fait, j'attends mon platine. J'attends le jeu qui me fera. Qui me réconciliera avec la licence.
Ah, moi j'attends mon noir blanc sur lequel j'avais craché en le faisant, et plus je le faisais, plus j'avançais et plus waouh.
En fait, pour moi, si tu veux, platine avait complètement ravivé la flamme, et noir blanc c'était la bonne surprise après la bonne surprise, si tu veux. Mais ouais.
Et donc il y a ça, et donc tu as aussi donc le trio légendaire de Articuno, Dialectoir, Sulfura dans des formes de Galar avec des types différents. Donc Articodin devient Psy, Elector devient Combat et Sulfura devient Ténèbres. Donc c'est-à-dire un trio de types qui fonctionnent les uns sur les autres, ce qui est très intéressant.
On n'a pas beaucoup de Pokémon. C'est un double type ou c'est juste un type du coup ?
Double type parce qu'ils gardent leur type vol.
Non voilà. Ah non, ce que je veux dire, Feu Ténèbres c'est pas commun. Mais enfin ok.
Feu Ténèbres t'as Démolos du coup. Ouais. Je crois que c'est le seul de
mémoire. Ouais voilà c'est ça. Ouais. Après bah c'était la deuxième génération en plus Démolos.
Ouais tout à fait. Donc il y a un moment. De mémoire c'est le seul. Hein. Je peux me tromper. Mais bon Psyvol hyper relou à Articodin parce que t'as déjà Lugia en légendaire et puis t'as Xatu aussi en Psyvol. Et puis
on les attaques électriques, je les descends tous et puis le problème est réglé. Hein.
Combat vol en revanche c'est intéressant parce que t'en as qu'un seul jusque là et qui est notre ami Brutalibré de la 6e génération. Et j'aime bien son côté chocobo à Elector. En termes de design, je les trouve très très réussi. Sulfura avec son côté oiseau ténébreux est assez cool. En sachant qu'en version chromatique, ils reprennent leur couleur originale de Kanto. Mais avec leur design du coup de Galar. Ce qui est là aussi, ça me donne très envie de les avoir en chromatique. J'espère qu'il y aura une distribution. Mais c'est pas le tout. Donc, en dehors du fait que tu peux récupérer tous les légendaires des anciennes générations dans la version Dynamax Aventure, qui une seule fois évidemment chaque légendaire, ce qui est plutôt bien, ça évite de choper 10 000 fois la même chose et c'est sympa. Eh bien, tu as deux nouveaux Pokémon, deux chevaux, je connais pas leur nom français pour l'instant, de type pur spectre et pur glace. Le glace étant l'attaque physique et l'autre étant plutôt spécialisé dans l'attaque spéciale, qui en fait sont les destriers, peut-être qu'il y aura un jeu de mots avec destrier d'ailleurs, de Silveroi. Et Silveroi peut se combiner avec ses chevaux et tu affrontes donc Silveroi sur son destrier. Donc c'est très intéressant. Je trouve qu'ils ont un design assez simple et du coup ça, j'avais peur qu'ils fassent un truc un peu trop
Oui, ils sont très goth hein.
Donc tu les vois là du coup
Ouais, je les vois, ils font très gothique hein.
Gothique tu trouves
Ouais, enfin surtout
le spectre quoi.
Ouais.
Donc je vais les chercher Legendary Horse Pokémon. Alors attends, est-ce que je les vois là ? Là je les vois. Pour les remettre sur ma tête.
Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu fusionnes les deux Pokémon ?
Alors, je sais pas exactement concrètement. Non, c'est pas une évolution, c'est pas une fusion, c'est une combinaison, on va dire.
Comment ça marche dans ton inventaire, mais tu vois, dans ta sélection de 6 Pokémon, c'est ça que je me demande.
Bah, je pense qu'ils tiennent que pour un, du coup, après, mais un peu comme tu pouvais déjà faire fusionner, tu te souviens, Zekrom, Zekrom et Reshiram avec Kyurem. Tu vois, donc finalement on garde quelque chose d'assez similaire, je pense, c'est-à-dire que au lieu d'avoir deux Pokémon dans ton équipe, ça en gardera un et tu pourras les séparer. Mais j'ai l'impression que de ce que j'ai lu, apparemment, il y aurait aussi la combinaison de leurs talents. ce qui serait une nouveauté aussi quelque part.
D'accord.
Donc ça c'est assez sympa. Ils sont assez simples. J'aime beaucoup le design du cheval de glace. Je trouve assez cool. Il a un petit côté licorne un petit peu. Le cheval spectre peut-être un peu plus attendu. Ils sont assez simples, mais je trouve ça bien justement de pas s'être laissé tenter par des designs trop tu vois Zacian Zamazenta. C'était pas too much, mais c'était border, hein, tu vois, je trouvais ça déjà un petit peu donc bon, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. J'aurais préféré plus de des nouvelles formes de Galar, hein, simplement plus de Roi Gada de Galar. En fait, je me disais, j'en parlais avec mon copain, je me dis j'attends le jeu qui me fera le même effet que Noir et Blanc, ouais, dans lequel t'avais quand même plus de 150, je crois que c'était presque 170 nouvelles créatures.
Vu le virage qu'a pris Pokémon Épée et Bouclier, vu les ventes de Pokémon Épée et Bouclier, j'ai du mal à concevoir que ça va arriver.
Mais
dans
c'est
un
pas
futur
impossible
proche.
En fait, parce que ils veulent garder le lien avec les anciennes générations, d'accord, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire une nouvelle région dans laquelle tous les anciens Pokémon ne seraient présents que par le biais de formes, tu vois. Imagine si à Galar, tous tes anciens Pokémon avaient forcément une forme de Galar, ce qui est pas forcément hyper difficile en termes de artistique, je veux dire. Plutôt qu'en foutre 400, t'en mets que 150 à la rigueur, mais au moins tous sont présents avec une forme de Galar. Et après, t'ajoutes, quand t'as fini la ligue, t'ajoutes du coup tous les anciens sans forme. Mais au moins, ceux qui sont ajoutés, ceux qui sont présents, bah, ça te pousse à redécouvrir le jeu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui était intéressant en Noir et Blanc. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on retrouve prochainement dans Pokémon.
Sur la question purement de la variété, de la créativité, du challenge, malheureusement les signaux qui ont été donnés à Game Freak, et je veux pas être dans le mode aller faire chier Game Freak, etc., parce que c'était bien détestable ce qui s'est passé avec ça, mais je trouve que les signaux externes qui parviennent à Game Freak les encouragent pas à aller dans
la direction. Pour eux, Épée et Bouclier, ils ont complètement eu raison,
d'un point de vue commercial,
ils ont eu raison du coup. C'est l'objectif principal, c'est que les joueurs soient satisfaits. Les ventes montrent que voilà, il y a un intérêt du côté des joueurs. Donc voilà, tout bêtement. Hein.
Ouais. Bah écoute, j'ai hâte d'y jouer. Du coup, ça sort demain. Moi, j'ai prévu de toute façon de prendre demain off, donc ça tombe bien. Je suis très fatigué en ce moment, donc tu vois, je prends un jour de vacances. Avec un peu de chance, il sort à minuit, comme ça, dès que je me lève, je peux commencer à y jouer. Mais voilà, donc j'ai hâte en tout cas, et puis on en reparlera au prochain After Show, je pense.
Eh bah, très bien. Tu voulais me parler de la saison 2 de Fall Guys.
Oui, tout ça pour dire simplement qu'il y a, je crois, que 4 nouveaux mini-jeux dedans, et j'ai fait quelques parties. J'ai pas été hyper hypé jusqu'à maintenant. J'attends d'avoir un peu la tranquillité d'esprit de pouvoir m'y remettre, et là, de toute façon, j'avais BioShock et la démo de Pikmin 3 sur le feu pour pouvoir en parler dans les épisodes de la cartouche. Donc c'est pour ça que j'y ai pas donné non plus énormément de mon temps. Mais voilà, juste pour dire, je suis assez peu tombé sur les nouveaux mini-jeux. Ils sont sympas, mais... Enfin oui, c'est rigolo, celui dans lequel tu dois escalader un mur de grimpe en déplaçant des blocs pour t'en faire des marchepieds. C'est intéressant, c'est rigolo, c'est la foire d'empoigne. Celui-là, je l'aime bien. Mais le fait qu'il soit vraiment littéralement noyé dans les autres mini-jeux, je trouve ça un petit peu dommage. Et j'espère qu'ils auront bientôt l'occasion, on va dire, d'augmenter un petit peu la variété du jeu. Ceci dit, j'ai pu choper une couronne assez rapidement. Genre, j'ai joué peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, et j'ai déjà eu une couronne. Donc, j'étais modestement content.
Voilà. Ouais, il faut que j'y rejoue pour découvrir ça et pour essayer d'avoir une couronne au moins une fois dans ma vie.
Ça tourne mieux sur PS4. Je tiens à le dire aussi, sur la base PS4, ça va mieux. C'est pas encore parfait, c'est pas tout à fait du 60 images par seconde tout le temps, mais ils font des efforts et ça se voit. Et bravo du coup Mediatonic pour avoir bossé ça. Et Fall Guys, il faudra qu'on s'en fasse ensemble. Tout comme un autre jeu que j'ai découvert ce week-end. Alors, découvert est un bien grand mot parce qu'il a été découvert il y a plusieurs semaines par d'autres personnes, beaucoup joué sur Twitch, et j'ai enfin eu l'occasion d'y jouer. C'est Among Us.
Mais oui, mais c'est le succès du moment et j'ai envie d'y jouer.
En parler, tu vois, d'écrire, non, c'est un peu compliqué. De toute façon, c'est la version jeu vidéo de notamment de ce jeu
Loup-garou de Tire-Solieu.
où il y a des imposteurs, il y a des traîtres parmi nous, mais on ne sait pas qui. Et tout l'intérêt du jeu, au-delà de son gameplay, où on va évoluer dans un vaisseau spatial, ou une base, ou ce genre de choses, et faire des petites tâches, sauf évidemment les imposteurs qui, eux, ont pour but de tuer les autres, c'est le jeu de découvrir qui ment et qui dit la vérité dans les phases où on doit voter. Et on a, par défaut, je crois que c'est 2 minutes pour décider pour qui on vote, ou si on saute le tour de vote. Et c'est un jeu qui est très intelligemment fait. Je suis très heureux en fait que ce gros vent de popularité soit arrivé à un jeu aussi malin, parce qu'au-delà, on va dire, de dépendre du drama, ce qui le rend extrêmement viral sur YouTube et sur Twitch, au-delà de simplement se baser là-dessus, les décisions de level design et de game design derrière Among Us permettent de rendre ces conversations beaucoup plus intéressantes que dans plein d'autres jeux qui fonctionnent sur le même mécanisme de délation, crédibilité, etc. etc. De jeux qui prennent vraiment une dimension sociale dans leur gameplay en tant que tel. Donc, très intelligent, Among Us. J'y ai joué 1h30, 2h ce week-end. J'ai hâte d'y jouer avec toi, Lou. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en faire,
mais oui.
Peut-être sur ton Twitch ou un truc dans le genre. J'ai regardé à ce stade depuis le week-end dernier plusieurs heures de stream de mes youtubeurs préférés, enfin de recap de stream de mes youtubeurs préférés en mode remontée, notamment d'Alpharad et de Jules Conroy. Vraiment excellent. Je prends mon pied à regarder ça et j'ai vraiment hâte d'y rejouer de nouveau et d'être l'homme le plus infecte du monde en niant à tue-tête. Voilà.
Mais c'est ça ouais, le côté bluff et tout, ça me parle vraiment.
C'est génial.
J'adore, j'ai envie de voir ça.
Enfin, c'est le côté aussi, tu tues quelqu'un devant quelqu'un d'autre, tu fais non, cette personne ment, en fait, c'est lui qui a tué.
Mais ça me rappelle un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Secret Hitler, qui, je sais pas si tu connais,
oui.
Du coup, jeu d'ambiance qui est pareil, basé sur le bluff, très, très intéressant. Et ouais, du coup, ça me donne forcément envie de jouer à ça, le côté, c'est de te faire passer pour quelqu'un de sympa, alors que.
Totalement. Ironiquement. Mais bref, non, je vais pas aller là, mais malheureusement, on a découvert que le co-créateur de Secret Hitler n'est pas quelqu'un de très sympa. Mais
ah merde!
C'est le co-créateur de Cards Against Humanity aussi. C'est Max Temkin qui a été.
Laisse-moi deviner, il est néo-nazi en fait.
C'était une très mauvaise idée de pas avoir de service de relations, de ressources humaines dans sa start-up. Parce que du coup,
t'as pensé le mot magique.
Ça se passait pas si bien que ça. MDR.
Ah, les startups, c'est formidable. Tiens, on n'a pas parlé d'ailleurs de Mario Kart Home Circuit.
Oui, je te retourne ce que tu me disais tout à l'heure, enfin, dans l'épisode précédent par rapport aux nouvelles consoles. Là, pour le coup, j'ai pas d'argent pour ça. J'ai pas la place.
Au supermarché, je regardais, je tenais la boîte. C'était vraiment, j'étais un enfant. Hein. J'avoue que même si
j'aime pas la souffrance animale du tout, c'est quand même assez rigolo de voir les gens qui tombent sur leur chat sous leur lit.
Ah mon dieu. Ah non mais c'est horrible. Mais j'avoue que j'achèterai pas de console pour Noël, mais si j'ai un petit peu de sous, je pense que je prendrai Mario Kart.
Tu veux pas prendre le Game & Watch? Non, je déconne.
Ce qui me fait peur en fait, c'est qu'ils sortent une version avec Peach plus tard.
Mmh,
là, ça me ferait
c'est
chier.
Pas inimaginable. Hein.
Ça me ferait chier parce que si je l'achète déjà et qu'après il sort une Peach, je suis obligé d'acheter Peach, bien évidemment.
Après, hein, pour toi, hein, pour ton copain, j'ai envie de dire, c'est pas forcément.
Oui, c'est-à-dire, je pourrais lui offrir, effectivement. Donc, il écoute le podcast, tu fais chier.
Tu veux que je bip?
Non, on va assumer jusqu'au bout. Non, mais effectivement, c'est plus logique. Effectivement, s'il sort Peach, autant que je lui offre l'autre. Quoi,
dans 2 semaines, il sera
cohérent.
Et mon Mario Kart, il est où?
Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, je me suis dit, viens, on l'achète, on le laisse chez toi et tout. Enfin, tu vois, et en plus, ce week-end, il est chez moi et moi, j'ai un grand appartement en plus. Donc, tu sais, j'avais évalué, en fait, la possibilité. J'ai un très vieux parquet, mais vraiment très, très, très ancien. Des vieilles lattes en bois, tout ça. Et j'avais évalué un petit peu en faisant une vidéo d'unboxing d'une Porsche Playmobil radio commandée. Donc je l'ai fait rouler, je me suis dit tiens, ça roule bien en fait, c'est pas mal. Et donc là je me suis dit, t'as le canapé là on peut faire passer les voitures, tout ça. J'ai la salle à manger à côté, je peux faire un très grand circuit en fait, mais une double boucle, tu sais. Du coup, ouais, je pense que ça va se faire.
Avant qu'on s'arrête pour aujourd'hui, parle-moi un peu de Humankind. J'en ai pas entendu parler.
Tu m'écoutes pas.
Comment ça, mais si.
Mais si, je suis sûr d'en avoir parlé dans la cartouche.
Amplitude. Bah, c'est forcément.
C'est un Civilization-like.
C'est encore, voilà, c'est encore un de tes jeux de gestion maudit.
C'est un 4X. Attention, c'est pas un jeu de gestion, je vais te taper.
C'est un 4X.
Donc, du coup.
Oui, si c'est Amplitude, ça a de bonnes chances d'être un 4X.
Date de sortie, avril 2021, sur PC et Stadia, avec une démo chez Stadia.
Avec une version macOS, tiens.
Donc, mais franchement, une démo sur Stadia, tu vois, une raison d'avoir Stadia.
Franchement, je suis surpris de voir un double A qui a une version Mac à sa sortie en 2021. Ça me surprend peut-être plus que la démo sur Stadia, honnêtement.
Bah écoute. Mais voilà, donc il faut s'y intéresser. Donc déjà, si vous avez Stadia, je pense qu'aucun auditeur de cartouche n'a Stadia, mais bon, pourquoi pas.
Si vous appelez Stadia, appelez un numéro vert que le gouvernement a mis en place parce que c'est vraiment inquiétant.
Exactement. Penchez-vous du coup sur la démo. Alors, en fait, c'est simple, ça reprend Civilization, ça donne un petit coup de pied dans la fourmilière, je pense. Tu incarnes du coup 10 cultures à l'aube de l'Antiquité, et à chaque fois que tu avances un palier, tu choisis une culture supplémentaire, et du coup tu crées au fur et à mesure ton identité nationale, ta nation, en amalgamant différents types de cultures, tu vois, sur le principe, je trouve ça assez intéressant. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce à quoi ça va ressembler en gameplay, parce que t'as cette espèce d'hégémonie de civilisation qui fait que en termes d'innovation, ils innovent, hein, c'est pas la question. Mais forcément, les idées vont toujours un petit peu dans le même sens. Là, avec Amplitude, du coup, le jeu risque de partir très 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 loin, parce que Civilization, tu sais, ils essaient aussi de rester sur leur base finalement. Là, ils partent de rien. Ils créent vraiment leur propre 4X, même s'ils sont déjà experts sur le genre. Mais de ce que j'ai vu, déjà graphiquement, c'est très mignon, c'est très dense. Tu vois vraiment des villes mondes, hein, presque tout ça, les nations qui se développent comme ça sur une très très longue portion qui fait presque un peu City Builder en quelque sorte. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant. Et puis les arbres, quand j'ai vu la tronche de l'arbre des technos, genre de choses, des arbres quoi, ça promet. Donc voilà. Donc renseignez-vous sur Humankind si vous aimez Civilization.
Ouais, et nous on devrait se renseigner aussi pour la cartouche, parce que je vois que le jeu a été conçu par Romain de Vaubert, qui est un personnage clé pour Amplitude, évidemment. Romain de Vaubert, qui était un des invités de L'Éclat de Boudoir Gambetta, en 2012 ou 2013. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que comme le jeu sort pendant cette saison, ça pourrait être intéressant de l'inviter en avril ou en mai l'année prochaine, pour qu'il vienne nous en parler.
Mais complètement.
Et je pense que tu auras plein de questions très intéressantes à lui poser. Donc Romain de Vaubert dans la cartouche.
Prenons contact aujourd'hui, voilà.
Mais il va falloir qu'on échange nos cartes de visite, comme dirait Reno Cacho dans Game Center CX, et qu'on arrange un petit peu tout ça, effectivement, parce qu'il y a opportunité d'avoir une conversation super intéressante entre toi et lui. Moi, je serais caché dans un coin en train de jouer à Pikmin 3.
En train de pleurer.
En train de pleurer aussi, peut-être aussi. ça dépend de mon état de fatigue à ce moment-là de l'année. C'est pas inimaginable.